toi avec la prière de notre frère Médard. Seigneur Dieu, c'est là notre prière. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour venir faire écouter nos voix. Mais Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour venir dans ton école. Nous sommes là pour venir t'apprendre quelque chose de toi. Merci Seigneur Dieu parce que tu nous as donné cette opportunité. Mais Seigneur Dieu, parce que toi tu es trois fois saint, nous venons auprès de toi pour que toi tu nous sanctifies. Parce que tu as vu comment nous avons marché durant toute la journée, Seigneur. Il y a des moments où nous ne t'avons pas plu par nos paroles, par nos pensées, par nos inquiétudes, par beaucoup d'autres choses de ce monde. Mais Seigneur de toi, tu nous as dit de nous confier seulement à toi, d'avoir confiance en toi. Seigneur, pardonne-nous parce que nous avons manqué cette confiance un moment. Pardonne-nous parce que nous avons fait des choses qui ne t'ont pas plu. Merci Seigneur Dieu pour le pardon que tu nous accordes. Remplis chacun de nous de ton Saint-Esprit, Seigneur, pour que Seigneur nous puissions comprendre et savoir comment appliquer ta parole, Seigneur. Mais grand Dieu, nous voulons te prier spécialement pour ton enfant, le pasteur José Mbala qui va nous diriger. Aide-le, Seigneur Dieu, à faire ce travail avec toi, Seigneur Dieu. Et merci, Seigneur Dieu, pour chacun de nous qui va prendre la parole pour intervenir, Seigneur Dieu. Que tout ce qui va sortir en ce moment, Seigneur, que cela vienne de toi, Seigneur Dieu. Rectifie nos tirs, Seigneur. Aide-nous à rectifier nos tirs. Aide-nous à comprendre ta parole. Aide-nous, Seigneur Dieu, à prendre une décision, à mettre cela en pratique. Nous voulons que ce moment soit dirigé par toi. Merci pour nos bien-aimés qui vont aussi écouter ce message en différé. Merci pour tous ceux-là qui sont sur le plateau. Merci pour tous ceux-là qui sont tentés de nous suivre. Bénis chacun de nous. Merci pour ce moment. Nous te rendons grâce, nous te bénissons pour la parole que nous allons écouter ce soir. Nous t'avons ainsi prié, grand Dieu, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
Amen.
Merci, Frère Médard, pour la prière. Nous écoutons la lecture du texte de ce soir dans Ésaïe chapitre 6, les 8 premiers versets, par notre sœur Louboula.
Merci. Je lis dans Louis II. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins s'étenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison s'est remplie de fumée. Alors j'ai dit: Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Parole de l'Éternel.
Nous rendons grâce à Dieu.
Nous rendons grâce à notre Dieu. Frères et sœurs, vous vous souvenez, c'est une semaine thématique. Et le thème de cette semaine, je nous le rappelle encore, c'est l'adoration. Et il nous est dit que le mot hébreu qui est traduit dans l'Ancien Testament par adoration signifie se prosterner. Et dans le Nouveau Testament, c'est un autre mot qui veut dire un acte de respect, un acte de révérence, un acte d'humilité devant le Seigneur. Lorsque nous disons que nous adorons notre Dieu, nous reconnaissons que nous nous rabaissons devant celui qui est très élevé. Dans les textes de ce soir, nous avons une révélation de Dieu qui est accordée au prophète Ésaïe. Et nous voyons une séquence des réalités chrétienne que nous connaissons, mais qui se situe évidemment dans une sorte de séquence. La révélation de la gloire de Dieu entraîne la prise de conscience de notre état de pécheur. Ceci, une fois que nous sommes conscients de notre état de pécheur, cela nous conduit inévitablement à la repentance, à la confession, qui, elles, doivent induire le pardon, donc conduire vers le pardon et la purification. Et le peuple qui est pardonné, purifié, c'est un peuple qui est disposé alors à servir le Seigneur Adonai. Donc, plus nous nous approchons de Dieu et qu'il se révèle à nous, nous réalisons combien Dieu est hautement séparé de toute autre chose. Les trois fois la répétition que les séraphins proclament ici, Saint, 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 ça peut être une insistance sur la séparation de Dieu de toute autre chose. Il est tellement élevé, il est séparé de toute autre chose qu'il est vraiment à part. Ça peut aussi nous montrer que nous proclamons qu'il est vraiment séparé celui qui nous a créés. Nous proclamons qu'il est séparé de tout, de tout, de tout mal, de toute iniquité, celui qui nous a sauvés, et nous proclamons qu'il est vraiment saint et séparé de tout, celui qui nous a régénérés et qui a fait de nous aussi un royaume et des sacrificateurs. Frères et sœurs, nous avons une vision qui a impressionné, on peut dire, qui a même révolutionné la vie du prophète Ésaïe, et combien plus encore quand nous voulons nous y pencher, nous-mêmes aussi, nous pouvons être solidement, profondément influencés aussi par cette vision de la grandeur de Dieu et la petitesse de l'homme que nous sommes et notre prise de conscience que Dieu est saint, nous sommes purs et que nous avons besoin de son pardon. Et ensuite, à la fin, c'est être prêt pour les services où le Seigneur le voudra, quand il le voudra et avec qui il le voudra. Voici en bref ce que nous pouvons avoir comme introduction à ces très courts textes de la méditation ce soir. Gardons en tête, frères et sœurs, que nous avons le thème de l'adoration et que faisons attention à ce que le Saint-Esprit met à notre cœur pour notre édification, mais aussi pour le bien des autres, qu'on s'édifie les uns et les autres en ayant en tête le thème de l'adoration. Là étant dit, nous avons deux questions. La question numéro 2 et la question numéro 3 qui nous aident à faire notre méditation. Est-ce que ce texte m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a un exemple à suivre? Et évidemment, la question numéro 7 que nous reprenons à chaque fois, y a-t-il une vérité que Dieu me révèle? Voilà, frères et sœurs, nous pouvons maintenant partager la parole du Seigneur. Un rapide coup d'œil à la liste. Nous sommes tous des habitués, alors nous savons comment prendre la parole et pour combien de temps. Voilà. Pasteur José, je vous avais mis à mute parce que quand vous êtes connecté, j'entendais un certain bruit. Donc, si vous voulez intervenir, vous pouvez toujours me faire signe. J'ai du mal à les limiter encore. Voilà. Alors, je vais commencer avec le verset 1. Le prophète Ésaïe nous dit, en se situant dans les temps, dans l'histoire, parce qu'il nous parle d'une année précise, et c'est une année qui peut être retrouvée par les scientifiques, les historiens qui étudient les documents du passé. Ils peuvent très facilement retrouver l'année de la mort du roi Ozias. Et c'est cette année-là que le prophète dit qu'il a vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient la terre. Deux éléments attirent mon attention dans ce verset-là, frères et sœurs. Au-delà de la réalité que l'événement qui nous est raconté, c'est un événement qui se situe aussi dans l'histoire, dans la vie des humains. La précision en ce qui concerne l'année de la mort du roi Ozias démontre effectivement qu'il y a une vérité historique. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas quelque chose qu'on nous raconte qui est venu de quelque part. Historiquement, on peut trouver la période où cet événement est arrivé. Le deuxième élément qui attire mon attention, c'est le terme « Seigneur » qui est utilisé ici. En consultant quelques documents, c'est le mot hébreu « Adonai » qui veut dire, au fait, le Seigneur des Seigneurs, qui est utilisé ici, et le trône dont il est dit, le Seigneur est assis sur un trône très élevé. Ça me donne d'emblée, pour répondre à la question numéro 2, ça me donne d'emblée de répondre à cela en disant, oui, le texte m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, parce que il est présenté ici par le prophète comme étant le Seigneur Adonai, celui qui domine au fait sur les règnes des hommes. C'est pour cela cette expression Adonai peut être comprise comme le Seigneur des Seigneurs. En d'autres termes, c'est lui qui domine sur tous les seigneurs du monde entier. Et il est assis sur un trône très élevé. Ici, je pense que nous pouvons nous référer à la réalité des autorités de ce monde d'aujourd'hui qui, lorsqu'ils sont intronisés, leur trône ou leur siège est toujours au-dessus de tous les autres sièges dans la salle où ils sont, ce qui montre leur supériorité. Et le prophète, dans le verset 1, il lui est révélé ici que le Seigneur Adonai, assis sur un trône très élevé, montre que c'est le Dieu qui domine sur toute autre chose. Et déjà, il est tellement grand et nous pouvons nous rabaisser devant lui en signe de respect et de reconnaissance, de gratitude par rapport à ce qu'il a fait, mais aussi de reconnaissance de son rang. Papa José, vous avez la parole.
Merci beaucoup, frère. Bien aimé, toujours dans ce verset, je prends la deuxième partie où il est question des pans de son manteau qui remplissait le temple. Nous pouvons imaginer le temple qu'a construit Salomon était magnifique et grand. Alors, les pans de son manteau remplissaient cet édifice. C'est pour montrer la grandeur de ce Dieu-là. Le trône est très élevé. Comme nous lisons quelque part dans la parole, le Seigneur règne dans les cieux et sa présence remplit la terre ou remplit toute la terre. C'est exactement ici. Très élevé, nous pouvons dire le trône est dans les cieux. Et le pan de son manteau remplissait le temple qui est sur la terre. Et aussi, la parole nous dit que les pieds de l'Éternel sont sur la terre. Alors, c'est pour montrer sa présence partout, l'omniprésent. Il est partout. Il est dans les cieux et il est sur la terre. Alors, c'est pour cette raison que les habitants de la terre que nous sommes, nous pouvons être dans la reconnaissance parce que Dieu ne nous a pas oubliés. Il ne règne pas seulement là-bas, mais les pans de son manteau remplissent notre terre. C'est la présence du Seigneur. Donc, nous pouvons être reconnaissants parce que nous n'avons pas été oubliés par le Seigneur. Par conséquent, nous devons l'adorer. Nous devons l'adorer pour suivre le thème de notre semaine thématique qui est l'adoration. Donc, nous sommes appelés à adorer notre Dieu, cet Adonai. Merci.
Merci, frère. La fin du verset 3 revient sur ce que vous veniez de dire, que toute la terre est pleine de sa gloire. La terre a une place particulière, évidemment, devant le Seigneur. Il nous a placés sur cette terre et nous devons le reconnaître, et lui donner la place qui lui revient, lui donner ce qui lui revient de droit, c'est-à-dire notre adoration, du respect, la reconnaissance de ce qu'il est. Papa Gaston, vous avez la parole.
Merci, Pasteur José du Canada, pour la parole. Je suis aussi au verset 1b. Le Pasteur José des États-Unis a donné un des aspects. J'ai donné un autre aspect. Les pans de sa robe remplissaient les temples. La grandeur de ce temple, tellement grand, mais les pans seulement de sa robe remplissaient tous les temples. Je suis interpellé que l'Éternel Dieu des armées se suffit à lui-même. Il se suffit à lui-même, voire certains plus grands de ce monde, pour remplir une salle, un stade. Il corrompt la population pour aller recevoir des ovations. Il oblige même la population de s'y rendre. Mais ici, l'Éternel se suffit à lui-même. Alors, je reviens un peu à ce que nous avons méditer hier dans Psaume 8, verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Lui qui se suffit à lui-même. Mais pourquoi il se souvient de l'homme? C'est dans son amour, dans sa, cette grâce, sa bonté, qu'il prend soin de moi. Et ça m'interpelle pour que quand je m'avance devant Dieu, que je ne tourne pas des aventures, que je sois sérieux devant ce grand Dieu qui se suffit à lui-même. Mais c'est une grâce qu'il m'accorde d'être à sa présence, de me tenir devant son trône. C'est une grâce parce que je ne peux rien lui apporter. Tout ce dont il a besoin, il en a et tout lui appartient. Que je me présente devant lui dans toute la crainte pour l'adorer. Amen.
Amen. Merci frère. C'est vrai que hier, avec le texte du psaume 8, nous voyons les dieux créateurs, c'est-à-dire, de par son nom Elohim, c'est lui qui a créé toute chose et qui a la puissance créatrice. Et à ce titre-là, il mérite et il méritera toujours d'être adoré, d'être loué, d'être célébré. Quand nous disons qu'il doit être célébré, nous voulons qu'il devienne célèbre. Et des fois, pour que quelqu'un soit célèbre, c'est vrai par ce qu'il fait, ses hauts faits, mais aussi c'est tous ceux qui parlent de lui tellement ils reconnaissent ce dont il est capable, alors ils le rendent célèbre en propageant, en parlant de ce qu'il est, de ses hauts faits, de ses vertus, etc. Donc, en tant que créateur, comme Elohim, le Dieu qui a le pouvoir créateur, le pouvoir de créer, d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas, il mérite d'être reconnu en tant que tel. Et cette reconnaissance ne doit pas être juste quelque chose qui sort de notre bouche comme cela, mais c'est un cœur tout à fait conquis de la réalité de la création et la création par notre Dieu. Et ça, c'est de la louange que nous lui apportons. Et aujourd'hui, c'est non seulement c'est les dieux créateurs que nous avons vus hier, donc Elohim, mais aujourd'hui, c'est le Seigneur Adonai qui domine sur tous les règnes des hommes. Si quelqu'un a un pouvoir, même qui règne quelque part, il a au-dessus de lui le Seigneur Adonai. C'est pourquoi nous l'appelons le Seigneur des Seigneurs. Nous apprenons effectivement que comme il est Seigneur, il mérite encore d'être adoré. En d'autres termes, tout lui appartient, tout le royaume lui appartient. Toutes les parcelles de pouvoir et d'honneur sont nécessairement à lui parce que c'est lui qui élève et c'est lui qui abaisse. Et il est dit même quelque part que le cœur des rois sont entre ses mains comme de l'eau, il l'incline d'un côté ou de l'autre. Donc c'est notre Dieu qui dispose de ces choses. On dit, on sort ici tous ses attributs, tous ses noms, de manière que notre cœur fonde devant lui de reconnaissance et de gratitude, qu'on s'abaisse devant lui en signe de respect, tout en proclamant haut et fort qu'il est très haut, il est très élevé. Merci beaucoup, frère. Papa Seigneur, ma Christine, vous avez la parole.
Oui, merci, Papa José, pour la parole. Le verset 2 et 3 nous montre combien il y a des êtres célestes qui passent tout leur temps à proclamer la seigneurie de notre Seigneur. On les appelle les séraphins, ces anges, qui se tiennent au-dessus de lui, et on nous décrit même leur composition avec six ailes, deux pour couvrir le visage, pour montrer combien même les anges sont humbles, peuvent ne pas regarder le Seigneur en face des autres pour voler avec un message à transmettre à toute l'humanité. Deux autres pour se voiler et les autres pour voler et pour la transmission du message. Mais c'est le message qui est proclamé. Il le proclame l'un et l'autre en disant qu'il est saint, qu'il est le Seigneur. Le Seigneur des armées célestes. Des armées célestes. Ce sont les êtres célestes en principe qui proclament ce message, mais qui nous disent dans ce message que toute la terre est pleine de sa gloire. Tout ce qu'il a créé proclame sa gloire. Toute la terre entière proclame sa gloire. Alors, la leçon que je tire, c'est que si moi je m'étais, je ne loue pas ce Dieu, je ne proclame pas la grandeur, la puissance et le règne de ce Dieu, je suis en train de me faire moi-même du mal, je suis en train moi-même de perdre le temps. Toute création entière proclame sa gloire. Pourquoi moi, créé à son image, je dois me taire? Pourquoi moi, renouvelé pour avoir une dimension nouvelle des fils de Dieu, je dois me taire? Voilà ce que je tire de ces deux versets où les êtres humains proclament sans cesse et saint qu'il est Seigneur des armées. Amen.
Amen. Amen. On peut même dire que parce que la terre toute entière est pleine de sa gloire, si moi je m'étais, c'est toute la création qui continuera. Le Seigneur Jésus l'a dit aux pharisiens lorsqu'il entrait triomphalement à Jérusalem et que les passants, les disciples et tous les autres proclamaient Hosanna au plus haut des cieux. Les pharisiens et les scribes ont dit, lui ont demandé de faire taire tout ce monde-là. Et le Seigneur a dit que s'il s'était dit, ce sont les pierres qui crieraient. Ça répond à ce qu'on vient d'entendre. Si alors toute la terre est pleine de la gloire de notre Dieu, ça veut dire que si je m'étais, si je ne peux pas proclamer moi aussi la gloire de Dieu étant une créature, alors ce sont les autres créatures qui vont le faire. Je suis privilégié parce que moi je suis créé à l'image de Dieu et je devrais, en fait, le Seigneur m'associe à cela, à sa gloire. Je devrais être le premier à célébrer la gloire, la louange à notre Dieu. Je devrais être le premier à l'adorer, c'est-à-dire reconnaître ce qu'il est. Merci, Papa Célé. Et je donne la parole au frère Albert.
Merci, frère Pasteur, pour la parole. Je suis au verset 5. Évidemment, le temps est très court pour qu'on puisse parler tout ce que l'Esprit me parle de ce verset, mais c'est formidable, mes bien-aimés. Et ce verset, sincèrement, m'amène personnellement à m'examiner et à m'interpeller. Ici, l'Esprit me parle et un exemple à suivre pour Ésaïe, c'est ici le vrai début, le début d'une vraie adoration, d'une adoration de Dieu tel qu'il est. Parce que Ésaïe, en face de Dieu, il vient de voir et il est confondu. Mais ce qui est important, Ésaïe reconnaît l'état de son âme. Il reconnaît qu'il est malheureux, il reconnaît qu'il est perdu, il reconnaît qu'il a le lèvre impur. Mais bien aimé, tout ça caractérise non simplement un malheureux, quelqu'un qui est perdu, qui a de l'œuvre impure, mais quelqu'un qui a dans son cœur une absence totale de Dieu. Parce que reconnaissons-nous que la parole de Dieu nous dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Et plus loin, Salomon nous dirait que garde ton cœur au-dessus de toutes choses, car c'est là la source de ta vie. Le cœur ne peut pas être la source de ta vie quand il est vide de Dieu. quand il est vide du Saint-Esprit, quand Jésus n'y habite pas. Donc ici, Esaïe est en train de nous dire, non seulement que lui-même, mais tout un peuple vit à l'absence de Dieu dans leur cœur. Et par conséquent, leurs lèvres sortent des choses qui sont impures. On ne peut pas bénir de même bouche et à la fois et maudire. Donc ça montre le fondement, une totale érosion de l'absence de Dieu dans le cœur. Et ce qui est important, il le reconnaît, il crie à Dieu, et le Seigneur qui voit son état d'âme, sa sincérité, qui est vraiment le début d'une véritable adoration, une adoration dans la sincérité, dans l'humilité, il va répondre et nous verrons la suite ce qui va arriver. Mais bien aimé, il est important que nous puissions reconnaître l'état réel de nos âmes et aller devant Dieu et crier au Dieu de continuer d'adorer Dieu dans l'hypocrisie. On marche. Merci, que Dieu soit loué.
Merci, Papa Albert. Le verset 5, effectivement, est un texte qui, dans ses portraits qui est dressé de notre Dieu, vient nous montrer que partout où il y a une vraie adoration de Dieu, ça aboutit inévitablement par la prise de conscience de notre état de cœur, qui, Dieu étant si saint, remarquez, frères et sœurs, au verset 2, lorsque les séraphins, c'est notre nom, un nom d'un groupe d'être céleste qui n'est pas mentionné ailleurs qu'ici, mais ce qu'ils disent en proclamant au verset 3, Saint, Saint, Saint et le Seigneur et l'Éternel des armées, nous le retrouvons aussi dans Apocalypse 4, versets 6 à 9, où nous avons les quatre êtres vivants qui sont devant le Seigneur et qui ont aussi six ailes, et il n'y a pas évidemment de ressemblance. Est-ce que ça veut dire que les séraphins, ce sont les mêmes êtres là? Non, rien ne le suppose, mais le mot séraphin, il veut dire, il donne l'impression de brûlant. On peut dire les brûlants, donc les séraphins. C'est une catégorie d'anges qui sont si pur et dont la mission ici est de proclamer la sainteté de Dieu. Et le prophète les voit devant le Seigneur, alors qu'eux-mêmes, ils sont purs lorsqu'ils proclament que Dieu est saint. Avec une paire d'ailes, ils se couvrent le visage comme si leur pureté n'équivaut pas à celle de Dieu, comme s'ils avaient peur ou honte de regarder Dieu en face. Ça nous montre combien Dieu est tellement saint, tellement élevé, que même la pureté des anges ne peut pas lui être comparée. C'est pour cela, lorsque le psalmiste dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, lorsque le peuple de Dieu est rassemblé pour adorer le Seigneur, il est dit, Dieu vient siéger là avec eux, parce que le Seigneur aime l'adoration. Dieu se plaît dans l'adoration, une vraie adoration. Or, si Dieu vient siéger au milieu de louanges de son peuple, ça veut aussi dire que le peuple de Dieu peut réaliser ce que le prophète réalise ici au verset 5. Si Dieu est parmi nous, ça veut dire qu'il s'est approché de nous, et quand je m'approche de lui, la lumière et la gloire de sa face illuminent tout mon être, même les petits éléments, les petites impuretés qui n'étaient pas visibles autrement, deviennent visibles parce que la lumière de Dieu m'éclaire tellement que, comme le prophète, on finit par s'écrier, même dans le fond de son cœur, Je suis vraiment un homme pécheur. Je suis vraiment un homme impur. Je vois encore Pierre, une fois qu'il a fait la pêche miraculeuse devant le Seigneur, dans Luc chapitre 5, alors qu'il voit une multitude de poissons dans sa chaloupe, il va s'écrier devant le Seigneur, « Éloigne-toi de moi, je suis un homme impur. » Donc la présence de Dieu nous donne la conscience de ce que nous sommes et nous finissons par confesser, nous finissons par reconnaître notre petitesse et dire à Dieu, « Pardonne-nous. » Nous verrons ce que la vraie repentance et la purification, ce que cela vont entraîner dans la suite. Je donne la parole au frère Gaston.
Merci, pasteur José, pour la parole. Je reviens au verset 3b. Toute la terre est pleine de sa gloire. Il n'y a aucun espace qui n'ait reçu et qui ne représente la gloire de Dieu. Toute la terre est pleine de sa gloire. Quand je vois les océans, les mers, les lacs, les baobabs, même les volcans, tout ce qui se passe, la beauté de la nature, je vois la présence de Dieu, Dieu qui est parmi nous, sa gloire resplendir partout. Alors ce qui m'a interpellé plus, pourquoi devrais-je avoir peur d'une autre créature? Pourquoi devrais-je avoir peur du diable, du sorcier? Pourquoi devrais-je avoir peur ou de telles personnes, il a la puissance de jeter la malédiction, de faire quoi que ce soit? Parce que partout, la gloire de l'Éternel, Dieu des armées, est omniprésente. Cela me fortifie, me rassure de continuer à louer celui dont la gloire est omniprésente. Et comme sa gloire est omniprésente, il est capable d'intervenir quand il veut et où il le veut. Il est tout puissant et quelle joie d'avoir celui-là dont la gloire est remplie toute la terre. Celui-là est mon Père, il m'appelle son Fils. Mmh. Amen.
Amen. Merci, merci, Papa Gaston. Alors, frères et sœurs, nous pouvons comprendre par là si, bon, en fait, pendant que le frère parlait, je me posais des questions. Comment est-ce que moi j'ai réagi dans la présence de Dieu? Puis-je, avais-je déjà été une fois dans la présence de Dieu? Qu'est-ce que la présence de Dieu a eu comme impact sur mon cœur, sur ma vie? Le prophète ici est en train de réagir, comme on le voit au verset 5, évidemment, avec le fait qu'il vient de voir au verset 3, des êtres célestes, des êtres si saints, des êtres séparés de tout, ça veut dire des êtres totalement saints, mais qui voilent leur face devant le Seigneur Adonai, et ils s'écrient l'un à l'autre, comme pour... C'est pas, est-ce qu'ils veulent s'encourager? Est-ce qu'ils veulent se convaincre? Mais ils s'écrient l'un à l'autre et ils disent, oui, le Seigneur Adonai est saint. Il est saint, il est saint. Lui, l'Éternel des armées. Et toute la terre est pleine de sa gloire. Or, je suis sur la terre. Comment, donc, quel impact a la gloire de Dieu dans ma vie? Le prophète réagit au verset 5 pour dire, au vu de ce qu'il vient d'assister, à ce à quoi il assiste, il s'est dit, je suis vraiment un homme perdu parce que j'ai vu, hein, je suis un homme dont les lèvres sont impures, Et je connais mon peuple, c'est aussi un peuple dont les lèvres sont impures. Et comment moi qui suis si impur, je peux voir l'Éternel des armées? Dieu lui a fait vraiment cette grâce, mais on voit que c'est un homme qui est, c'est vrai, attiré par cette vision de gloire, mais aussi il est dans les foies, parce que on sait dans la culture juive, Dieu a dit, aucun être humain ne peut me voir et vivre. Il va dire alors, je suis perdu parce que si j'ai vu le Seigneur, je vais mourir. Mais aussitôt, on le voit au verset 6, l'ange, un des séraphins, va voler à son secours avec une pierre ardente tirée de l'autel et il lui en touche la bouche et il lui dit alors que son iniquité était enlevée et son péché était expié. Alors, si Dieu siège au milieu de louanges de son peuple, si, comme le frère vient de le dire, toute la terre est pleine de sa gloire, qu'est-ce que cela a comme impact sur moi, sur ma vie? Voilà une question encore à laquelle nous avons besoin, chacun pour sa part, de répondre. Papa Gaston, la main reste levée. Est-ce que vous voulez intervenir encore?
Non, pasteur, c'est une main oubliée, s'il vous plaît.
OK. Alors, je passe, frères et sœurs, au verset 7. Frère Albert, je vous donne d'abord la parole.
Merci, frère pasteur. Et je reviens au verset 6 que vous venez de commenter tout à l'heure. Moi ici, le Seigneur me révèle une chose par rapport à l'amour de Dieu vis-à-vis de nous. Quand je vois l'ange voler vers Esaïe, amenant la pierre ardente du feu pour mettre sur ses lèvres et le purifier de ses péchés, je vois Jésus-Christ qui vole en secours de nous pour nous sauver de nos péchés. Mais ceci n'est possible que quand la personne que je suis reconnaît l'état d'âme dans lequel je me retrouve et que je fais une confession sincère. Ce qui s'est passé ici dans le cas d'Esaïe. Vraiment, je trouve que Dieu, quand nous sommes sincères avec lui, il ne ferme pas le porte pour voler à notre secours et nous sauver de toute situation dans laquelle nous sommes embourbés, quel que soit l'état d'âme dans lequel nous nous trouvons. Il est disponible de nous sauver et de nous laver et de nous purifier de tout péché pourvu que nous soyons sincères devant lui. Merci, que Dieu nous aide et qu'il soit loué.
Merci frère, c'est vrai, notre Dieu n'a jamais résisté à un cœur repentant. Jamais Dieu s'est détourné de quelqu'un qui sincèrement veut se repentir et veut marcher avec lui. Nous n'avons qu'à nous souvenir du brigand qui a été sauvé à quelques minutes, peut-être une petite heure avant sa mort, lorsque le Seigneur était crucifié. Toute personne repentante, toute personne qui désire se réconcilier avec Dieu, n'a jamais trouvé la porte fermée devant le Seigneur. C'est pour nous dire, nous rappeler, qui que tu sois, où que tu sois en ce moment, si tu as une certaine culpabilité et si tu veux te réconcilier avec Dieu, la porte du Seigneur reste toujours ouverte, il est toujours disponible. Aujourd'hui, comme il nous dit dans Hébreux, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il y a toujours de la place. L'auteur aux Hébreux nous dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Parce qu'il y aura un jour où ce sera trop tard. Mais en ce moment, la possibilité de se réconcilier avec lui par la repentance est toujours là. Merci beaucoup, frère. Papa José, vous avez la parole.
Oui, merci, pasteur. Bien-aimé, le verset 7, les paroles l'ange à Ésaïe me fait penser aux paroles du Seigneur Jésus à ceux qui l'écoutaient. Le Seigneur a dit, je ne suis pas venu chercher le bon, le juste, mais ceux qui étaient perdus. C'est exactement ici. Cet homme, Ésaïe, il sera très prochainement appelé à faire le travail de Dieu. Disons, son appel, sa vocation va tout de suite apparaître. Mais ici, je vois que Ésaïe n'était pas propre devant le Seigneur. Il a reconnu ses péchés, disons une partie, en mentionnant ses lèvres, parce que nous péchons de différentes manières. Mais il a cité les lèvres, il n'a pas cité ses pensées, il n'a pas cité ses actes et autres choses. Alors, c'est pour dire que le Seigneur, quand il nous envoie, quand il nous appelle, ce n'est pas parce que nous avons mérité ça. Nous n'avons pas mérité. C'est lui-même qui descend, qui nous prend, comme ici, le Seigneur est descendu, il a laissé descendre son pan de son manteau, il a vu ça. Ésaïe est émerveillé, il dit ce qu'il a dit, et après, son péché sera effacé. Et il sera prêt maintenant pour aller. Donc, oui, le Seigneur est venu chercher ce qui était perdu. J'étais perdu. Il est venu. Tu étais perdu. Le Seigneur est venu. Après ça, il nous confie la responsabilité. Il nous confie la tâche, la mission. Ce n'est pas parce que nous avons mérité cela. Non, c'est sa grâce. C'est pour cette raison que nous devons l'adorer. Quand nous pensons à ce que nous sommes en train de faire, de méditer la parole de Dieu, c'est une grâce. Et nous devons l'adorer pour ça. Tandis que nos contemporains, il y en a qui ne veulent même pas qu'on parle de la Bible ou qui ont appris quelque part, mais une histoire là, lointaine, la Bible. Pourtant, nous avons la Bible chaque jour. Qu'est-ce que nous avons fait? C'est une grâce. Adorons le Seigneur pour cela. Merci.
Merci, frère. Je vais laisser la dernière parole à Papa Célé Maman Christine.
Oui, merci. Merci, Papa José, pour la parole. Moi, je suis au dernier verset, le verset 8, où nous voyons la réaction de cet homme de Dieu, Ésaïe. Il entend quand même la voix du Seigneur qui pose la question, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? » Sa réponse est tout de suite, « Je suis prêt. Envoie-moi. » Alors je me dis, cette même voix retentit dans les oreilles de chacun et de chacune parmi nous Partout où nous sommes, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, le Seigneur nous dit toujours, qui enverrai-je? Pour dire, nous sommes des ambassadeurs du Seigneur partout où nous sommes. Nous avons été envoyés, mais notre façon de vivre, de réagir, montre si réellement nous sommes prêts à le représenter ou pas. Qui marchera pour nous? Parce que tout le monde sur la terre ne marche pas pour Dieu. Il y en a beaucoup, beaucoup de sanctuaires du diable. Il y en a beaucoup, beaucoup qui marchent pour l'ennemi. Mais mon interpellation, ma question, pour qui est-ce que je marche chaque jour? Amen.
Amen. Merci beaucoup, Papa Stélé. Le verset 8 conclut effectivement avec... excusez-moi de... disons de l'exprimer un peu du point de vue humain. C'est un peu comme Dieu, comme si le Dieu très haut, le Seigneur Adonai, avait un besoin. Il va alors, il pose la question. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? En d'autres termes, il regarde la terre qui est remplie de sa gloire, qui est pleine de sa gloire, son œuvre est immense. Rappelons-nous ce que le Seigneur Jésus disait à ses disciples. Il leur disait, regardez, la moisson est vraiment grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et il va même leur demander, faire une requête vis-à-vis de ses disciples en leur disant, priez donc le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans son champ. Et déjà ici, le prophète Ésaïe entend aussi le Seigneur qui se pose des questions, qui va poser des questions. Qui est-ce que je vais envoyer? Et la personne qui a vu, qui a reçu la révélation de Dieu, la personne qui a reconnu son état de pécheur, qui s'est repenti, qui a confessé son mal, son péché, la personne qui a été purifiée par le Seigneur, c'est une personne disposée à faire la volonté de Dieu. Et regardez comment il va dire, c'est aussi un homme qui peut aussi avoir ses préoccupations à lui. Mais maintenant, parce qu'il a vu ce qu'il a vu, il est imprégné de toute cette gloire. Lorsque le Seigneur veut quelque chose, lorsque le Seigneur exprime son besoin, Ésaïe est prêt, il va alors dire, « Mais voici, envoie-moi. » Il ne va pas dire « Envoie quelqu'un d'autre. » Il ne va pas dire « Envoie notre pasteur. » Il ne va pas dire « Envoie mon enfant. » Non, il dit « Mais voici, envoie-moi. » Frères et sœurs, c'est un texte très court, c'est vrai, mais un texte qui me montre une certaine logique. Là où il y a la révélation de Dieu, il y a inévitablement la prise de conscience de notre état de pécheur. Et notre état de pécheur nous pousse alors à nous repentir devant le Seigneur, qui est l'Éternel des armées, le Dieu trois fois saint. Et lorsque nous nous repentons, le Seigneur ne nous tournera jamais le dos. Toute personne repentante trouvera toujours une oreille attentive auprès de l'Éternel, Dieu qui est trois fois saint. Et lorsque le Seigneur nous entend ou nous voit nous repentir, aussitôt il vient à notre secours pour nous purifier. N'est-il pas écrit que si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache qui est répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés, procurer la pureté de la chair. Mais à combien plus forte raison le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez les dieux vivants. Donc, il y a inévitablement une relation entre l'adoration, comme on le disait au début de la semaine, que le vrai service est une conséquence de l'adoration. On le voit encore ici, qu'un cœur qui a sincèrement adoré Dieu C'est un cœur à qui le Seigneur s'est révélé. C'est un cœur qui a reconnu ce qu'il est devant Dieu. Et un cœur qui a reçu, qui connaît la repentance et qui a reçu le pardon. Mais c'est aussi un cœur disposé à servir le Seigneur. Comme Ésaïe nous le montre ici, il répond à Dieu, un peu comme je vais un peu paraphraser un peu, « Seigneur, me voici, tu m'envoies, tu n'as plus à te poser encore des questions, je suis prêt. » Mon frère, ma sœur, es-tu prêt? Suis-je prêt? Si oui, le Seigneur a besoin de nous dans son champ, dans son royaume. Voilà pour ce soir, frères et sœurs. Demain, nous allons lire Matthieu chapitre 26. Nous lirons du verset 6 au verset 13. Nous aurons les questions numéro 1 et numéro 3 pour nous aider à méditer. Papa Célé, avons-nous des annonces ce soir?
Oui, Papa José, juste pour saluer les frères et sœurs qui sont nombreux à la radio en train de nous suivre depuis Massachusetts, North Carolina, ça c'est pour le US, et puis au Canada, depuis Alberta, et puis depuis le Québec. Merci.
Merci beaucoup. Papa José, est-ce que vous pouvez prier le Seigneur pour nous, s'il vous plaît?
Oui, merci. Bien-aimés, prions le Seigneur. Grand Dieu, les mots nous manquent pour nous adresser à toi, compte tenu de la beauté et la grandeur de ce texte. Toi, le grand Dieu, qui a un trône très élevé, un trône stable, un trône éternel qui ne bouge pas, c'est-à-dire tu restes roi à jamais. Merci Seigneur, parce que tu penses à nous les humains. Tes pieds sont sur cette terre. Tu as envoyé ton Fils sur cette terre pour sauver l'humanité. Dans ta grandeur, tu as pensé à nous. Nous sommes semblables à Ésaïe, qui a vu son indignité, qui a reconnu son péché. Seigneur, malgré tout cela, tu as voulu te montrer à lui afin que tu le prennes dans ton travail. Après que lui s'est dépouillé, c'est-à-dire après avoir reconnu son état de péché. Seigneur, nous voulons te servir et nous avons besoin de ce cœur d'Ésaïe, un cœur humble, reconnaissant son indignité. Seigneur, que l'Esprit de Dieu soit en nous. Nous sommes pour toi, comme toi, tu es pour nous. Merci pour cette parole qui nous a bénis. Va avec chacun de nous. Nous sommes sur le point de nous reposer et nous oublier aussi. Seigneur, nous sommes très fragiles en tout et pour tout. Mais notre force est en Christ, qui est notre rocher protecteur. Nous nous confions en toi pendant cette nuit. Seigneur, tu peux nous parler pendant la nuit. Tu peux nous guérir spirituellement ou moralement ou physiquement pendant la nuit, parce que à tes yeux, la nuit n'existe pas. Tout est clair. Béni sois-tu, notre Seigneur. Merci pour ce que tu fais pour nous. Nous nous confions en toi. À toi la gloire, l'honneur et la puissance dans tous les siècles des siècles. Amen.
Amen.
Merci, Papa José, pour la prière. Bonne soirée, frères et sœurs. Et nous nous recommandons à la grâce de Dieu. À demain.